Europe 1.
Le Graal, la lumière divine, la mission sacrée. Alors reprenez votre place à la table ronde, la vraie.
Historiquement vôtre.
The successor to the kings and queens of history.
Picasso, s'il avait les cheveux, c'est certain qu'aujourd'hui il porterait un chignon comme des femmes.
C'est ici mon palais, César. Tous les appartements y sont donc à ma disposition.
Stéphane Bern.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Clémentine,
bonjour
Jean-Luc,
Stéphane.
Bonjour Stéphane,
David,
bonjour.
Et bonjour à celui qui est aussi notre guide culinaire vivant et même bon vivant, Olivier Bouls.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Ravi de vous retrouver comme chaque après-midi sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire sans se la raconter, en compagnie de personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, qui ne vivaient pas à la même époque, mais qui ont un point commun. Aujourd'hui, ils sont tombés sur un os. Eh oui, Josiane, ça fait mal. C'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi, avec des personnages qui sont tombés sur un os au sens propre, mais pas forcément leurs os, à eux. À commencer par celui dont on célèbre aujourd'hui le centenaire de la découverte, Howard Carter, et sa découverte quasi inespérée après de longues années de recherche du tombeau du pharaon égyptien Toutankhamon et sa momie conservée durant plus de 3000 ans. Dans un sarcophage en or massif. Puis je vous raconte un commando pas comme les autres, le commando de l'île Dieu, qui a fait parler de lui en tombant volontairement sur un os, ou plutôt un cercueil aussi, celui du maréchal Pétain, qu'ils avaient décidé de voler. Et après les morts, le vivant, c'est vous Jean-Luc Lemoine qui dresserait vers 17h30 le portrait de notre troisième personnage du jour, qui lui est vraiment tombé sur un os, mais c'était le sien.
Oui, plus dur sera la chute, qui disait. Eh bien sa chute, lui, a surtout été très haute. Je vous raconte la folle histoire d'un laveur de carreaux tombé du 47e étage d'un building. Il est tombé sur un os, et même plusieurs. Traumatisme crânien, lésion à la colonne vertébrale, côte cassée, de nombreux os brisés aux deux jambes.
Mais il est vivant.
Bah, d'après mes dernières infos, oui. Hein, sinon, vous pensez bien que j'aurais pas parlé de lui.
Ah oui, évidemment, évidemment. Eux, eh bien, voyez-vous, à côté de nous, ils aiment bien avoir un os à ronger, comme on dit dans le métier. D'abord, celle qui nous entraîne dans l'intimité de l'histoire, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Alors Clémentine, de qui nous parlez-vous aujourd'hui?
Ah bah là, il va y avoir plus d'un os, parce que je vais vous parler du chef chouan Cadoudal, arrêté, condamné à mort, guillotiné en 1804, l'esprit, c'était l'ennemi juré de Napoléon, mais sa dépouille mortelle va connaître un incroyable destin. Voilà un suspense insoutenable, c'est ce que vous promet ma chronique du jour. Et je tiendrai mes promesses.
Des promesses, toujours des promesses. Lui remonte aux origines d'un objet, d'une mode, d'une passion, d'une obsession, souvent la sienne. Hein. C'est David Castello-Lopez.
Ouais, mais aujourd'hui je vais vous parler du cochon d'Inde.
Ah,
voilà. C'est un petit animal très très mignon.
Il vient d'Inde, j'imagine.
Ah, on verra, c'est peut-être pas sûr.
Oui, bah oui, parce que l'Inde, telle qu'on l'imaginait.
Mais oui, exactement.
Donc c'est l'Amérique.
Bah attendez, n'est-il pas tout.
Les origines, c'est en toute fin d'émission. Et juste avant, comme dirait l'autre.
Mais aïe, quelle époque, mais aïe, quelle époque.
Oui, ça s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on remonte au temps de la Rome antique. On parle cuisine avec vous, Olivier Pouls, et plus encore que cuisine, gastronomie. Et orgies.
Oui, les fameuses orgies romaines. Mythe ou réalité? Qu'est-ce qu'on pouvait bien manger lors de ces repas, et pas que des repas d'ailleurs, lors de ces moments, on va dire.
Il y avait des libations aussi.
Hein. C'était incroyable.
Eh bien, mes aïeux, quelle époque, ce sera tout à l'heure, vers 17h45.
Vous avez tout dit, Stéphane?
Oui, enfin, ce qui est important, oui.
Non, il y a d'autres choses importantes. Écoutez ça.
Un jour... Jean-Luc, je vous le dirai avant, rien que pour éviter de dire la phrase « Vous avez tout dit, Stéphane ».
Oui, ça serait aimable. En plus, vous devriez être heureux. Hein, hier, vous avez remporté le quiz. C'était une espèce de renaissance. Est-ce qu'il y aura une suite aujourd'hui? On va voir ça.
Mais pour l'heure, restez bien avec nous. Je vous raconte notre premier personnage du jour.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern.
Il y a tout juste 100 ans, on assistait à la plus incroyable découverte égyptologique de tous les temps. Enfin, moi je n'y étais pas, mais on m'a raconté. Voilà un siècle, en effet, un archéologue britannique autodidacte perçait le mur du tombeau somptueux et quasi inviolé de Toutankhamon. Je vous raconte celui qui a inscrit à jamais son nom dans l'histoire grâce à cette découverte qui lui a causé bien des ennuis aussi. Howard Carter. Remontons le temps 100 ans en arrière. Direction la Haute-Égypte et plus précisément la vallée des rois, la nécropole royale de Thèbes, antique capitale des pharaons. Dans cette gigantesque vallée désertique, sorte d'amphithéâtre naturel baigné d'un soleil brûlant, un homme de 48 ans, archéologue britannique à la moustache épaisse, trépigne d'impatience. Il faut dire qu'en ce 26 novembre 1922, voilà près de 5 ans, Howard Carter, puisque c'est bien de lui dont il s'agit, attend ce moment. 5 ans qu'il fouille cette ouede aveuglant à la recherche d'une tombe que tout le monde croit perdue. La tombe d'un roi effacé de l'histoire qui a régné sur l'Égypte aux alentours de 1320 avant notre ère, c'est-à-dire en plein âge d'or de la civilisation égyptienne. 5 ans d'une quête obstinée à y croire contre vents et marées. Et voilà que ses efforts vont enfin payer. Enfin, peut-être. Carter est sur le point d'en avoir le cœur net. Il se rejoue la scène en boucle dans sa tête, celle qui s'est déroulée 3 semaines auparavant, ce 4 novembre, où tout a basculé. Ce jour où les ouvriers du chantier lui ont annoncé qu'une marche venait d'être mise au jour dans sa zone de fouille. Était-ce trop beau pour être vrai ? Non. Au crépuscule, après avoir dégagé une marche après l'autre, le haut d'une porte scellée leur est apparu. Alors, il espère. Il veut se dire qu'il a eu raison d'y croire, raison de convaincre le très fortuné Lord Carnarvon, son mécène, de financer une ultime campagne de fouilles, celle de la dernière chance. C'était il y a 3 semaines donc, et depuis Howard Carter attend, une attente éprouvante, car il sait que là, juste sous ses pieds, à portée de pioche, se trouve certainement ce qu'il cherche depuis si longtemps. Mais cette attente est terminée. Lord Carnarvon est rentré en urgence d'Angleterre et il va enfin pouvoir ouvrir la tombe que Carter espère être celle de Toutankhamon, fils du pharaon Akhenaton. Oui, il a bien trouvé un sceau au nom du roi sur la porte, mais est-ce la tombe du souverain qu'il cherche depuis tant de temps ou celle d'un noble enterré dans les lieux à la faveur royale ? En ce 26 novembre 1922, l'instant décisif est arrivé. À quelques mètres sous la surface, au bout du couloir long et étroit que les ouvriers ont dégagé derrière la première porte, Howard Carter, Lord Carnarvon et Lady Evelyn Herbert, sa fille, se trouvent face à la porte qui scelle l'entrée du tombeau. Les mains tremblantes, Carter pratique une ouverture dans la porte, puis lentement, minutieusement, il y introduit une tige de fer qui ne rencontre que le vide. Pour s'assurer qu'aucun gaz toxique n'en émane, il place une bougie devant l'ouverture. Elle vacille. Un air chaud se dégage de la pièce, mais la flamme tient bon. Alors, il élargit le trou et enfin se risque à un premier regard. D'abord, le noir est complet. Puis, à mesure que ses yeux s'accoutument à l'obscurité, des formes se dessinent. On dirait d'étranges animaux, des statues. Et quelque chose scintille, de l'or. Il y a de l'or partout, de l'or qui reflète intensément la lumière de sa chandelle. Pendant quelques secondes, Carter reste muet de stupeur. Puis n'y tenant plus, Lord Carnarvon lui demande s'il voit quelque chose. Oui, Carter voit quelque chose. Des choses merveilleuses, leur répond-il. Et ce n'est que le début. La pièce qu'ils viennent d'ouvrir fait partie d'un ensemble constitué d'une antichambre, une annexe, une chambre funéraire et une salle du trésor. Et elles sont toutes pleines à craquer d'un trésor de près de 5400 artefacts. Une caverne d'Ali Baba, abandonnée depuis plus de 3000 ans, où s'entassent des dizaines de statues de divinités, dont celle d'Anubis, le dieu protecteur des morts, de fabuleux bijoux, des coffrets dorés contenant les viscères du roi, des jarres de vin millésimé, des maquettes de bateaux, des sceptres royaux et même 6 chars. Et surtout, dans un cercueil en or massif de 110 kilos, la momie du jeune pharaon Toutankhamon, fauchée entre 18 et 20 ans, dont la tête est recouverte d'un chef-d'œuvre absolu, un masque funéraire en or, serti de pierres précieuses. La nouvelle de la découverte de la tombe se répand comme une traînée de poudre. Les journaux du monde entier relaient le scoop. Les Occidentaux, dont la fascination pour l'Égypte antique commençait à se ternir, sont de nouveau pris d'une fièvre égyptomaniaque. Quel aboutissement pour Howard Carter ! Cette découverte est celle de sa vie. Son nom sera pour toujours associé à celui de Toutankhamon. Lui, dont la carrière avait été entachée 17 ans plus tôt par une sombre affaire de dispute, une affaire qui s'était soldée par sa démission du prestigieux service des antiquités égyptiennes. Un parcours singulier pour cet Anglais, au caractère bien trempé que rien ne prédestinait à devenir l'une des figures majeures de l'égyptologie. Pour commencer, Howard Carter est issu d'une famille relativement modeste, chose rare dans ce milieu élitiste et savant. Et puis surtout, il n'a pas fait d'études universitaires. Originaire d'une petite ville de l'est de l'Angleterre, il est le cadet d'une fratrie de 11 enfants et n'a ni étudié l'archéologie, ni même l'histoire. C'est par l'intermédiaire d'un autre prisme que sa carrière a débuté, l'art. Car comme son père, Samuel John Carter, peintre reconnu, Howard est un artiste talentueux. Et c'est en tant qu'aquarelliste, à 17 ans à peine, qu'il est envoyé pour la première fois en Égypte. Il a dégoté une mission, recopier les peintures des tombeaux du site de Beni Hassan. C'est le début de presque 15 ans, d'une série de missions sous la houlette des plus grands archéologues de l'époque. Percy Newberry, William Flinders Petrie, Henri-Édouard Naville, Théodore Monroe Davis, Gaston Maspero. Grâce à ce dernier, justement directeur du prestigieux service des antiquités égyptiennes, Carter est nommé au poste d'inspecteur en chef de Haute-Égypte à l'âge de 26 ans. Il n'y fera pas long feu. 5 ans plus tard, à cause d'une dispute qui tourne au vinaigre, il claque la porte de l'institution. Un mal pour un bien quand on connaît la suite de l'histoire, mais un incident révélateur de son caractère houleux et qui laisse présager un autre conflit à venir, étrangement mal connu, et qui va avoir des répercussions immenses. Depuis 1905, Howard Carter, désormais la trentaine, ne fait donc plus partie du service des antiquités égyptiennes. Mais fort de son expérience acquise sur le terrain, il trouve vite un autre employeur. Lord Carnarvon, richissime mécène féru d'archéologie, l'engage en 1907 pour mener à ses côtés plusieurs campagnes de fouilles. Le duo fonctionne bien, si bien même que 17 ans plus tard, en 1922, c'est ensemble qu'ils feront la découverte du KV-62, la 62e tombe découverte dans la vallée des rois, celle de Toutankhamon. Lord Carnarvon n'aura pas la chance d'en profiter bien longtemps. 4 mois seulement après l'ouverture de la tombe, l'homme de 56 ans est terrassé par une fièvre soudaine. A-t-il été victime d'une malédiction ? La rumeur enfle. Quoi qu'il en soit, Carter, pourtant le premier à pénétrer dans la tombe, vivra encore de très longues années, 17 ans pour être très précis. Toutefois, une autre sorte de malédiction l'aura poursuivi. Non pas égyptienne, celle-ci, mais française. Elle a un nom, Pierre Lacot. Remettons les faits dans leur contexte. Fin 1922, le royaume d'Égypte vient d'être connu par les Britanniques. Et dans le climat nationaliste qui règne alors, la fuite des trésors de l'Égypte ancienne vers l'Occident est très mal tolérée. Quelques mois avant l'ouverture du tombeau, Pierre Lacot, successeur de Gaston Maspero au poste de directeur du service des antiquités égyptiennes, avait envoyé une circulaire aux savants étrangers. Désormais, l'État égyptien décide seul s'il souhaite ou non remettre aux fouilleurs une partie des objets trouvés. Une loi fut officiellement adoptée le 6 décembre 1922, soit un mois après la découverte de la tombe de Toutankhamon. C'est le début d'un bras de fer qui durera plusieurs années entre les deux hommes. L'un voulant à tout prix privilégier ses financeurs et ramener une grande part du trésor de Toutankhamon en Angleterre et aux États-Unis, l'autre s'opposant avec fermeté à la circulation de tels biens nationaux. Pierre Lacot, savant intraitable, finira par avoir gain de cause, initiant un principe qui prévaut encore aujourd'hui : les antiquités trouvées dans un pays reviennent à ce pays.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Howard Carter avec Clémentine Portier-Kaltenbach, nous avons le plaisir d'accueillir l'égyptologue qui révèle les derniers secrets du tombeau de Toutankhamon dans un livre. Bonjour Amandine Marchal.
Bonjour.
Amandine Marchal, en 1922, Toutankhamon est un pharaon relativement méconnu. C'est en fait la découverte de son tombeau qui l'a rendu célèbre. Qu'est-ce qui a mis Howard Carter à sa recherche ? Pourquoi est-ce qu'il voulait à tout prix localiser sa tombe ?
Alors en fait, il est persuadé qu'il y a au moins une tombe qui n'a pas été trouvée, puisqu'effectivement le roi Toutankhamon est connu. On le connaît parce qu'il est mentionné dans les tombes de nobles. Qui ont du coup eu la chance de l'approcher ou de travailler pour lui. Et puis beaucoup plus récemment, Theodore Davis, qui est donc un avocat américain qui avait obtenu le privilège de pouvoir travailler dans la Vallée des Rois, a fait plusieurs découvertes qui pour lui en fait sont vraiment des indices accumulés que quelque part il y a encore cette tombe à trouver. Donc parmi ces indices, il a trouvé une tasse en faïence bleue au nom de Toutankhamon. Dans une tombe, il a trouvé des jarres qui sont estampillées au nom de Toutankhamon. Il a retrouvé également des sceaux. Donc toujours au nom du roi, un châle aussi qui mentionne l'an 8, qui est l'avant-dernière année de règne de Toutankhamon. Donc tous ces indices, pour lui, sont la preuve que quelque part, il y a encore au moins cette tombe à découvrir. Et c'est pour ça que pendant des années, il va attendre patiemment dans l'ombre que Théodore Davis finalement renonce au privilège de fouiller dans la vallée des rois pour récupérer le permis de fouiller.
Clémentine.
Quelles informations sur la vie de Toutankhamon ont été révélées grâce à la découverte de son tombeau sur sa vie? Et puis par ailleurs, est-ce qu'on peut encore apprendre des choses? On en a tellement parlé, on a tellement publié sur ce tombeau.
Alors la découverte de la tombe, en fait il y a deux choses. C'est la découverte d'une part et puis ensuite l'étude de la momie qui vont révéler, parce qu'on ne le sait pas du tout à cette époque-là, que le roi est monté très jeune sur le trône. Il est monté entre 9 et 11 ans sur le trône d'Égypte. Et ça, on n'en a aucune idée, en fait, avant cette découverte. Alors, on le sait notamment parce qu'on a trouvé beaucoup de vêtements d'enfants qui étaient en fait marqués du cartouche royal, donc du nom royal de Toutankhamon. On a retrouvé aussi un mannequin en bois absolument magnifique qui porte une couronne un peu particulière avec l'uréus. L'uréus, c'est le cobra sacré qui protège les pharaons, qui se trouve sur la couronne des pharaons. Donc, par rapport au visage très enfantin de ce mannequin, on sait que le roi est monté jeune sur le trône. Et quand enfin on accède à la momie, on se rend compte qu'il est mort effectivement très jeune, entre 18 et 20 ans. Et ce n'était pas du tout une information qu'on pouvait avoir jusque-là. Donc on va avoir ces informations qui sont quand même très importantes. Et oui, il y a encore des informations qu'on n'a pas. L'identité précise de la mère du roi. Comment exactement il s'est fracturé la jambe, ce qui en fait a conduit finalement à une septicémie généralisée qui va aboutir à la mort du roi. De quelle façon? On a eu beaucoup de gens qui ont fantasmé un peu trop aussi sur la mort de ce jeune roi, qui par ailleurs avait vraiment une vie épouvantable. Il est orphelin très jeune, on sait qu'il avait des os du pied qui se nécrosaient, qu'il y en avait d'autres qui lui manquaient, donc il souffrait terriblement. On a retrouvé plus de 300 cannes dans sa tombe, c'est pas anodin non plus, donc il avait quand même besoin de cannes pour pouvoir marcher. Donc non, c'est vraiment quelqu'un qui a une vie qui n'est pas du tout enviable, contrairement à ce qu'on pourrait le penser.
Enfin, une vie très dorée quand même, parce que quand on ouvre la tombe, le 26 novembre 1926, l'or abonde devant Carter. C'est un véritable garde-meuble en or ou doré. Qu'est-ce que l'or symbolise à cette époque dans l'Égypte ancienne ?
Alors l'or a bien évidemment une valeur économique très importante qui fait que très très peu de gens peuvent finalement s'octroyer, se payer des objets en or. Mais l'or a aussi une valeur symbolique très importante, c'est la chair des dieux. Et donc voilà, un mobilier qui est recouvert d'or permet en fait à la personne d'être plus proche des dieux.
Dans votre livre, La tombe de Toutankhamon, l'envers du décor, vous nous apprenez que ce 26 novembre 1922, lorsque Howard Carter pénètre dans le tombeau de Toutankhamon, il n'est pas le premier à y mettre les pieds. Il y avait eu d'autres visiteurs qui l'avaient précédé.
Tout à fait. Alors ça, c'est beaucoup moins connu. D'ailleurs, souvent, à tort, on parle d'une tombe intacte. Alors, on a retrouvé tellement de choses à l'intérieur que c'est vrai que c'est un peu improbable pour les gens que la tombe ait été visitée. Et pourtant, très très peu de temps après les funérailles du roi, entre quelques semaines et maximum 5 mois après les funérailles du roi, on a eu 2 incursions de pilleurs de tombes. Et en fait, Howard Carter a trouvé énormément d'indices. Et donc, ces indices nous permettent de savoir quand est-ce que, de façon très précise, les pilleurs sont rentrés dans la tombe, qui ils étaient, comment ils ont opéré, ce qu'ils ont pris. Alors c'est incroyable parce que normalement une tombe pillée, on sait qu'il y avait des choses dedans mais on ne sait pas quoi exactement. Et en fait sur les boîtes, sur les coffrets, soit on accrochait des étiquettes indiquant le contenu, soit on écrivait une inscription à l'encre noire qui précisait ce qu'il y avait, ce qui fait qu'entre le moment où en fait on prenait ces coffres, on les remplissait et on les amenait à la tombe, c'était pas à côté. Donc pour s'assurer que personne en fait n'avait pioché dans le trésor finalement royal, dans le trésor funéraire royal, on scellait et donc du coup on vérifiait une dernière fois en fait dans la tombe. Et donc Howard Carter a pu de façon très précise pointer ce qui avait été pris, ce qui avait été laissé. Et donc on a pu avoir une très très bonne idée. On sait que par exemple 60% des parures ont été prises par les voleurs. C'est absolument énorme quand on voit ce qu'il est resté. Et on sait aussi que la seconde fois, les voleurs se sont fait attraper. Et c'était pas un très très bon plan de se faire attraper quand on était pilleur de tombe royale.
Quand Carter rentre dans la chambre funéraire, C'est un jeu de poupées russes qui commence, puisque le pharaon repose dans 3 cercueils emboîtés les uns dans les autres au sein d'un sarcophage qui est lui-même protégé par 4 chapelles. Il faut du temps avant de découvrir la plus belle pièce du trésor, qui est le fameux masque funéraire de Toutankhamon. Mais là, c'est là que les choses se corsent pour la momie. Alors, quel traitement lui a été infligé, Amandine ?
Oui, alors en fait, bah, vous l'avez dit, la plus belle pièce, vous parlez du masque. La plus belle pièce, normalement, ça devrait être la momie, en fait, en elle-même. Et on a l'impression que Howard Carter est devenu complètement fou, en fait, en voyant ce masque, qu'il a une nouvelle obsession, qui finalement est d'arriver à retirer le masque de la momie. Donc, il va employer toutes sortes de moyens, alors qu'il détaille sur plusieurs pages, justement, dans son rapport de fouille, où il nous dit qu'il va exposer notamment la momie à plus de 60 degrés en extérieur pour essayer de faire fondre la résine, parce qu'en fait, c'est ça le problème. C'est qu'on a coulé de la résine sur les bandelettes, on a mis juste après le masque, et donc cette résine, elle est un peu comme de la super glue, donc on n'arrive pas, justement, elle colle complètement le masque. Donc il réussit à abîmer la momie, mais il n'arrive pas à retirer le masque. On va utiliser des lampes à paraffine qui vont aussi causer énormément de dégâts sur la momie. Et puis finalement, on se résout à arracher la tête de la momie pour retirer après plus facilement le masque. Donc déjà ça, c'est quand même pas anodin. Oui. On se dit où est le respect en fait pour ce corps, voilà, enfin royal ou pas, hein, juste pour ce corps humain. Et
Masque qui l'a rendu fou.
Mais alors moi j'ai quand même l'impression, parce que quand on voit en fait Douglas Derry, qui est le professeur d'anatomie, qui vient donc pour étudier la momie, on se dit mais il ne fait quasiment que parler des bijoux, quoi, alors que ce qui devrait l'intéresser, lui, c'est le corps. Et donc dans son rapport, il n'arrête pas de nous parler des bijoux, il nous dit sans aucun complexe, ce qui est quand même choquant aussi, que pour retirer plus facilement les bijoux, on a coupé le roi au niveau des poignets, au niveau des coudes, au niveau des bras, au niveau des pieds. On l'a quand même dépecé.
Incroyable.
Mais on va où là ? On va où ? Oui. Et ça, je ne comprends pas pourquoi. Ça ne se dit pas en fait en égyptologie. Donc, bon, moi, je mets les deux pieds dans le plat, je le dis. C'est scandaleux.
Donc Howard Carter a à la fois redonné vie à un souverain inconnu, mais lui a fait une très grande violence. C'est ce que vous nous apprenez.
C'est un tort. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit aujourd'hui la tombe, très très clairement, la tombe, les objets ont eu la chance de tomber sur un fouilleur comme Howard Carter, qui a pris un soin incroyable, et surtout pour l'époque, avec les conditions et les moyens qu'on avait à l'époque, de traiter ces objets. Quand on voit ce qu'il a fait avec la momie, moi, ça me fait rire quand on me parle de malédiction de Toutankhamon. J'ai celui qui a été maudit dans l'histoire, c'est le roi, c'est pas Carter.
Parce que clairement Carter, pas. Lui, qu'est-ce qu'il a fait après ce moment de sa vie tellement extraordinaire?
Mais ça a été souligné à plusieurs reprises qu'effectivement, il n'avait pas un caractère qui était très, très facile. Après, il y a quand même des choses qui sont intéressantes. C'est quelqu'un, vous l'avez dit, qui venait d'un milieu qui était quand même relativement modeste. Qui a mis les pieds dans l'Egypt Exploration Society, qui à ce moment-là, en fait, c'est vraiment l'institution anglaise de référence. Il a été pistonné pour pouvoir entrer dedans. À cette époque-là, on a quand même beaucoup de nobles, essentiellement des nobles, des bourgeois. Il a dû se faire une place qui a été compliquée. William Flinders Petrie l'a viré en disant qu'il ne ferait jamais un bon égyptologue. Donc finalement, cette découverte de la tombe de Toutankhamon, non seulement c'est une découverte absolument incroyable, mais c'est très très clairement aussi une revanche pour Howard Carter, et qui part à ce moment-là dans les tours, qui ne se sent plus, et c'est ça en fait qui va aussi lui finalement du côté du tort, parce qu'il va ouvertement affronter Pierre Lacot dans un combat que très clairement il ne gagnera pas. Il a fait beaucoup d'erreurs, on va dire stratégiques aussi, en mettant la presse égyptienne à l'écart. Enfin, il a fait vraiment beaucoup d'erreurs, ce qui fait qu'il a quand même eu des soutiens de gens qui sont venus à un moment donné voilà, essayer de l'aider, et puis à un moment donné qu'il l'a abandonné, et il se retrouve tout seul. Il ne va jamais pouvoir publier la tombe comme il le voulait, et puis sur la fin de sa vie, il n'y a plus personne en égyptologie qui veut lui parler. Il va être vraiment mis à l'écart complètement.
Une autre question qui se pose, Amandine Marshall. Plus de 5000 objets composaient le trousseau funéraire de Toutankhamon. Tous sont restés en Égypte, puisqu'il n'a pas pu les ramener, mais visiblement, il s'est quand même servi.
Ah oui, complètement.
Alors, et ça, on le dit moins dans les livres d'égyptologie.
On le dit moins. Ce qu'on sait à l'époque, c'est qu'il y a quand même une très très grosse histoire, une très grosse embrouille, parce que les autorités égyptiennes se sont rendues compte qu'en fait, il avait mis à part des objets qui n'étaient pas référencés, pas répertoriés. Donc il a eu vraiment des problèmes à cette époque-là. Il a été, je dirais entre guillemets, sauvé par des appuis égyptologiques qui ont vraiment garanti sa bonne foi en disant « Écoutez, il a oublié ». C'était pas le genre de personne à oublier. Mais bon... Voilà, on a voulu faire croire qu'au Sunni, qu'effectivement, il avait oublié de numéroter ses objets. Aujourd'hui, on est quand même plutôt assez d'accord pour dire que non, il les avait très clairement mis de côté, et pour lui et pour Lord Carnarvon. Et on sait aussi que ses descendants, neveux, nièces, se sont trouvés très embêtés, parce qu'au moment de l'héritage, ils se sont trouvés avec des objets égyptiens qui manifestement venaient de la tombe. Et donc, vraiment, de façon officieuse, ils les ont rendus à l'Égypte parce qu'ils ne savaient pas quoi en faire. Mmh. Donc oui, il s'est servi, clairement.
Et puis, il y avait son caractère impétueux, vous l'avez... vous l'avez rappelé, il s'est fâché avec Pierre Lacaux et puis surtout ce manque de considération vis-à-vis de la momie de Toutankhamon. Il est considéré comment par ce monde de l'égyptologie?
Bah, il est considéré comme voilà, celui qui a fait une des plus grandes découvertes, sinon la plus grande découverte en égyptologie. Bon, moi, clairement, ce n'est pas du tout quelqu'un que j'apprécie, clairement. Mais en même temps, j'admire énormément la détermination qu'il a eue. Parce que je veux dire, c'est s'accrocher autant sur autant d'années, ne jamais lâcher l'affaire. Moi, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être souligné, qui est admirable. Mais c'est vrai que, voilà, on va dire qu'il y a l'égyptologue, il y a le personnage. Et on fait la part des choses, mais ce n'est pas quelqu'un qui est vraiment apprécié dans le milieu de l'égyptologie.
Très bien. Mais merci beaucoup, Amandine Marchal, de nous avoir révélé les derniers secrets du tombeau de Toutankhamon. Votre livre « La tombe de Toutankhamon, l'envers du décor » est disponible aux éditions Mondes Antiques. Et je précise par ailleurs que vous publiez également « Bienvenue à l'école des scribes » aux éditions du Rocher pour découvrir la civilisation égyptienne grâce aux hiéroglyphes. Je crois que ça n'avait jamais été fait, je découvre ça et c'est passionnant. Et puis on vous retrouve évidemment sur vos chaînes YouTube « Néfertitube » et « Toutankhatube ».
Voilà, merci beaucoup.
Europe 1. Historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
Tous les jours, vous le savez, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Avec Jean-Luc Lemoine qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre.
Oui, et aujourd'hui ce sera une spéciale démocratie, car on va parler de Kadhafi et de Ceausescu.
Ah, bah, voilà de formidables chantres. Mais avant cet affrontement, je lui laisse la parole. Oui, parce que Clémentine Portier et Kaltenbach a l'art de nous raconter des histoires dont elle seule a le secret.
Dans l'intimité de l'histoire.
Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez le grand chef vendéen Kadoudal qui fut monté en Anatole, comme on dit, squelette pédagogique, donc, par Dominique Larrey, le médecin de la Grande
Incroyable
Armée.
Incroyable histoire. Vous connaissez un peu Kadoudal, Jean-Luc?
J'avoue que non.
Vous ne voyez pas à quoi il ressemble.
La Roque Jacquelin.
C'est un très grand héros des guerres de Vendée pendant la Révolution française. Il était fils de riche laboureur, né à Kerléano, en Brèche, le 1er janvier 1771. Kadoudal, rien que son nom veut tout dire en breton, ça veut dire guerrier retournant au combat. C'est un personnage incroyable, parce que déjà, c'est une armoire à glace avec un coup de taureau. Et quand il était recherché comme ennemi public numéro un, son signalement fut diffusé dans tout Paris. Son signalement disait « extrêmement puissant ». Très ventru, beau teint frais, blanc et coloré, yeux gris, cheveux châtain clair. Alors Kadoudal, comme il est tout jeune homme au moment de la Révolution française, il est d'abord assez enthousiasmé par les idées révolutionnaires, et comme l'ont été d'ailleurs un certain nombre d'aristocrates. Mais c'est un royaliste avant tout, et c'est pourquoi quand Louis XVI est guillotiné le 21 janvier 1793, alors là c'est la fin de son enthousiasme, il s'engage à fond dans la contre-révolution, et il se bat comme un lion pendant 7 ans. Alors d'abord, c'est des échauffourées, des émeutes, des embuscades, des escarmouches en Vendée. Il va avoir une existence extrêmement chaotique et aventureuse pendant ces années. Il part à Londres, il est fait prisonnier à Brest, il s'évade de prison. Et puis, il finit par s'imposer comme le chef des troupes vendéennes contre-révolutionnaires en Morbihan. Et de sorte que le comte d'Artois fait de Kadoudal le meneur d'hommes, cet homme d'une trempe exceptionnelle, le lieutenant général commandant en chef des armées catholiques et royales dans le Morbihan, Finistère, Ille-et-Vilaine et Côte-du-Nord. Kadoudal devient vraiment un homme extrêmement puissant dans la contre-révolution, et d'ailleurs tellement fort, tellement malin, tellement efficace que Bonaparte, qui va le rencontrer, ne va pas s'y tromper, il va tenter de l'acheter. Il lui propose un grade de général, de division et une rente. Et l'autre est exaspéré. Ce petit homme-là, en plus, évidemment, à côté de lui, c'était vraiment un abo, Napoléon. Ce petit homme-là, j'ai eu envie de le prendre dans mes bras, de le serrer, à l'en étouffer. Qu'est-ce qu'il croyait, que j'allais travailler pour lui, pour de l'argent? Alors, quand il y a l'attentat de la rue Saint-Nicaise contre Bonaparte, eh bien, évidemment, tout de suite, on soupçonne Kadoudal d'avoir trempé là-dedans. Donc, il se cache à Paris, près du Panthéon. Et puis un jour, eh ben, il est débusqué, il est dénoncé. Il part à bord d'une carriole et il ne va pas très loin, d'ailleurs depuis le Panthéon jusque la rue de Bussy. Et là, il est arrêté. Au passage, il a tiré sur un agent de police. Et d'ailleurs, à son procès, l'anecdote est bien connue. On lui reproche d'avoir tiré sur un policier qui était père de famille, un nommé Buffet. Et Kadoudal aura cette fameuse réplique. Mais Vous n'aviez qu'à me faire arrêter par des célibataires. Bon, Cadoudal, lui, il est donc exécuté avec 11 de ses compagnons place de Grève le 25 juin 1804, c'est-à-dire devant l'actuelle mairie de Paris. Et ce qui a beaucoup de gueule, c'est que jusqu'à la fin, il aura eu du panache, cet homme-là. C'est-à-dire que la tradition voulait que l'on exécuta d'abord les chefs de bande, et lui a demandé comme une grâce d'être exécuté en dernier, parce qu'il ne voulait pas que ses camarades exécutés avant lui puissent penser une seule minute qu'il accepte pour lui une grâce honteuse après leur mort. Donc il a dit, allez, je passe le premier sous la guillotine. Alors la suite est à peine croyable, c'est que ses compagnons d'infortune sont tous inhumés au cimetière Sainte-Catherine du côté du faubourg Saint-Marcel, mais la dépouille de Cadoudal, elle est conservée et réduite à l'état de squelette, c'est-à-dire toute nettoyée de ses chairs, probablement dans de l'eau bouillante, hein. Et ça a été probablement fait par Larrey, le médecin de la Grande Armée, qui est un homme absolument remarquable. Comment a-t-il... Alors évidemment, Cadoudal était un ennemi juré de Napoléon. Mais enfin, prendre ce grand homme, préparer ses ossements, faire un anatole, c'est-à-dire il l'a monté sur fil de fer et il le met dans son cabinet à l'université. Larrey aurait donc gardé ce squelette dans son bureau. Mais vient la Restauration. Et là, ça la fiche mal d'avoir monté sur fil de fer le héros de la contre-révolution. Vous imaginez, vis-à-vis du roi qui est revenu au pouvoir, « Ah, monsieur Larrey, vous avez monté Cadoudal sur fil de fer. » Bon, alors là, Larrey rend le squelette, mais il se présente comme le simple dépositaire de la relique et non comme l'auteur de l'outrageante opération qui a fait du héros breton un objet de collection pour cabinet de curiosité. Sauf que dans ces histoires d'os, rien n'est jamais vraiment terminé. Il semblerait que le crâne ne soit pas celui de Cadoudal. Sa dernière descendante a pu le voir, elle l'a trouvé bien petit, alors qu'il avait une tête très massive. Alors, le crâne de Cadoudal a-t-il été dérobé? Où? Quand? Où se trouve-t-il à présent? D'aucuns prétendent qu'il serait quelque part en Bretagne, dans le cabinet de curiosité d'un particulier. D'autres, qu'il se trouve en Allemagne. D'autres, enfin, qu'il est suspendu au lit à baldaquin de Stéphane Bern au Collège Royal de Thiron-Gardais. Bon, alors ça, c'est une probabilité quand même assez puissante. Bon, si c'est un fait, qu'en tout cas, Stéphane, moi, je pense qu'il faut mettre sur le coup tout de suite notre limier maison, Philippe Charlier. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut qu'on retrouve le vrai crâne de Cadoudal. C'est une chose urgente.
Absolument, vous avez tout à fait raison. En tout cas, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas Jean-Luc, nous on l'a pas. Voilà. Okay. Et pour tout connaître sur les tentatives d'assassinat dont fit l'objet Napoléon, je vous recommande le livre le plus complet, le plus récent sur le sujet, « Il voulait tuer Napoléon » de Jacques-Olivier Boudon, paru chez Talendier. Maintenant, c'est le moment de l'émission où je ne contrôle plus rien, puisque c'est Jean-Luc qui prend la main pour le quiz « Born to be Alive ».
Oui, c'est moi qui prends les commandes de ce Boeing du savoir historique, un vol à destination de la culture. Bon, je ne vous cache pas que quelques turbulences sont à prévoir. Et on va commencer avec vous, Stéphane. On va commencer avec un démocrate que vous aimez certainement, j'en suis sûr, Nicolae Ceaușescu.
Très sympathique.
Très sympathique.
Sa femme a écrit des petits carnets merveilleux. Je crois qu'ils étaient apocryphes, mais bon, c'était très drôle.
Alors, pour ceux qui l'auraient oublié, c'était le président de la République socialiste de Roumanie de 1967 à 1989. Sa présidence ne fut pas, je vous l'accorde, parfaite, hein, contrairement à ce que vous prétendez, Stéphane.
Non, je prétends rien.
Par contre, le plus jeune des fils des Ceaușescu, prénommé Nicu, était un bon gars. La preuve, il a dirigé la société protectrice des animaux roumaine. Vrai ou faux?
Oh, certainement, oui. Oui, parce que c'était un gentil garçon.
Tout à fait. Bah, comme toute la famille.
Oui, non. Il pourrait être le président de la société protectrice des animaux et être un horrible chasseur.
Ouais, c'est ça.
Je pense qu'il peut y avoir cette contradiction.
C'est-à-dire vraiment une forme de perversité.
Il avait des voitures, il roulait très vite. Je me souviens très bien de tout ce qu'on racontait sur...
Vous ne confondez pas avec le fils de Kadhafi, là? C'est pas lui qui avait les noms?
Non, lui aussi, le fils...
Pas tous les fils de dictateurs roulent très vite. Hein.
Ça sera pour vous,
Clémentine. Alors, là où il peut y avoir un piège, c'est qu'il était... C'était un type horrible, donc... Je serais tenté de dire non, il ne pouvait pas défendre une belle cause comme la SPA, oui.
Mais
en fait, vous voulez deux réponses, oui et non.
C'est l'affichage qui compte dans
oui,
une...
c'est l'affichage.
Bien sûr. Donc, ce serait plutôt oui.
Moi, je dirais
type
oui.
Était un chasseur
cruel. C'est un
horrible
cruel. Bonhomme, mais il était président de la SPA.
Alors, Nicu Ceaușescu a-t-il dirigé la société protectrice des animaux roumaines? Vous dites oui, on vérifie.
Vous avez... perdu.
Bah non, faut pas exagérer quand même. Hein.
Oui, mais ça aurait été bien.
Oui, ça collait. Hein.
Non, là on peut même dire que c'est une belle grosse ordure. Hein. Donc vous l'avez dit, amateur de voitures de sport, gros consommateur d'alcool et de femmes, il dépensait des fortunes à Las Vegas pendant que son peuple était dans la misère. Il reste connu aussi pour avoir harcelé et exigé une liaison avec Nadia Comăneci, la célèbre gymnaste. Chose heureusement qui n'arriva jamais. Donc la société protectrice des animaux, même, c'était bien loin de...
On avait raison, il roulait vite. Hein.
On avait raison sur qui il était, si vous voulez. Mais j'aurais trouvé amusant
Ça serait plus original de nous trouver un enfant dictateur qui soit justement un gars super bien, généreux, engagé.
On explore un petit peu le terrain des enfants dictateurs. Allez, on va rester en bonne compagnie avec Mouammar Kadhafi. Le guide de la révolution libyenne a eu un fils, Saadi. Vous le saviez ?
Oui.
Un joueur d'échecs qui a remporté plusieurs tournois nationaux, mais on imagine assez facilement que ses adversaires le laissaient gagner.
Bah oui.
Oui.
Vrai ou faux ?
Ah oui, je pense que oui.
Vous n'avez pas le choix.
Alors, vous pensez que c'est vrai ?
Oui.
C'était un joueur d'échecs qu'on a laissé gagner, par crainte.
Oui.
On vérifie ça.
Vous savez...
Perdu !
Et non, c'est faux.
On est mauvais en dictateur avec
Stéphane. Oui, c'est ça, c'est bizarre. Hein,
c'est notre fibre profondément démocrate que voulez-vous. Oui.
En fait, il n'était pas bon en échecs, il ne faisait pas d'échecs. Il était mauvais en foot. Mais il a même joué en Serie A italienne, qui est l'équivalent de la Ligue 1 chez nous. Il a joué pour le club de Pérouse en Italie, c'était en 2003. Mais non seulement il n'avait pas le niveau, sa place était due à des magouilles. Et en un an, il a joué 15 minutes. Et en plus, il a été contrôlé positif contrôle
maintenant
antidopage.
Maintenant que vous le dites, cette histoire de foot me dit quelque chose. C'est vrai que je tiquais un peu sur les échecs, mais enfin, voilà, ça c'est mon côté bienveillant. C'est pas parce que vous êtes le fils de Kadhafi, vous n'êtes pas forcément un pourri, nul, absolument partout.
Pareil que pour les animaux,
c'est désespéré de l'humanité.
Oui. Votre bienveillance vous a perdu tous les deux. On va essayer de se rattraper avec la question 3. C'est la magie de ce quiz. On va quitter nos amis dictateurs pour la famille Van Gogh.
Ah.
Johanna Van Gogh était la femme de Theodorus Van Gogh, qui était le frère de Vincent. En 1914, alors que les deux frères sont morts, que va faire Johanna ? Plusieurs propositions. Les réunir l'un à côté de l'autre ? Les séparer ? Ou déterrer Vincent pour prouver qu'il lui avait fait un enfant ?
Elle va déterrer l'un des deux pour qu'ils soient côte à côte.
Ils sont côte à côte.
Dans le même cimetière. Elle va donc rapatrier le corps de...
Je veux dire, si vous me donnez le nom de la ville... Je peux m'arranger pour que vous présentiez le village préféré des Français.
Auvers-sur-Oise, non, c'est à côté, c'est là où il y a le...
Ah, mais j'y étais... Auvers-sur-Oise, oui.
Attends, si c'est pas Auvers-sur-Oise, c'est... Mais non, c'est le village des peintres.
C'est bon, il a gagné. Les tombes sont côte à côte à Auvers-sur-Oise, bravo. Oui. Elle va mourir 11 ans après, et Théo comprenait le mal-être de son frère. Il va même lui donner de l'argent, faisant croire au début que les sommes venaient de leur père. Théo, qui finira fou et qui va mourir de la syphilis. Oui. Est-ce que Clémentine va réussir à égaliser ? On va rester dans l'art, direction Trévise. La Fontana del Tete est une fontaine ornée d'une statue qui a été érigée en 1559. Particularité de cette œuvre, elle représente une femme se tenant les seins. À l'époque, du droit coulait du vin blanc, du gauche, du vin rouge. Vrai ou faux ? La Fontana del Tete. Il y avait du rosé aussi, mais je ne peux pas vous dire d'où il sortait.
Non, je réponds non.
Alors, vous dites non ?
Non.
Vous êtes sûr ?
Que des fontaines distribuent du vin, oui, mais là, l'idée du vin blanc et vin rouge, là, j'ai du mal à le croire. Mais c'est peut-être ce qui justifie cette question.
Vous avez... Encore perdu.
Donc il y avait vin blanc
exactement.
Et vin rouge.
Oui, alors, pour une période donnée, hein, c'est le maire de l'époque qui avait eu l'idée, pendant 3 jours... Tout le monde pouvait boire gratuitement du vin à la fontaine. Elle a fonctionné jusqu'en 1797. La démarche était de conjurer une grande sécheresse qui avait eu lieu en 1559.
Ouais. Non, là, je me suis fait avoir sur l'aspect vin rouge, vin blanc. Ça, je veux dire, j'y croyais pas. Mais c'est une tradition ancienne et médiévale, en effet, pour les fêtes, les fontaines distribuent du vin. Ça, oui, mais chapeau les Italiens. Hein, ils avaient fait des... Bon,
ils avaient le sens de la fête.
Je m'incline sur cette question alcoolisée.
Et on s'incline devant ce triomphe de Stéphane Bern.
Il n'en revient pas lui-même.
Ouais,
hein.
Je serais content.
On va faire un petit contrôle antidopage quand même.
Voilà. Merci beaucoup Clémentine et à lundi, bon week-end.
Le Graal, la lumière divine, la mission sacrée. Alors reprenez votre place à la table ronde, la vraie.
historiquement vôtre.
The successor to the kings and queens of history.
Picasso, s'il avait des cheveux, c'est certain qu'aujourd'hui il porterait un chignon comme des femmes.
C'est ici mon palais, César. Tous les appartements y sont donc à ma disposition.
Stéphane Bern.
Je ne suis évidemment pas seul, ils sont trois, ils sont avec moi. Jean-Luc Lemoine, David Castel-Lopez et notre guide culinaire vivant, et même bon vivant, Olivier Pouls.
Oui, on est toujours là.
Oui, on est tous là.
Pas bougé.
Et ceux qui n'auraient jamais pu se croiser, mais qui ont un point commun, et c'est bien pour ça qu'on les réunit cet après-midi, nos trois personnages du jour qui sont tombés sur un os. Après Howard Carter, tombé après l'avoir longtemps cherché sur le tombeau de Toutankhamon, je vous raconte le commando de l'île Dieu qui a cherché un autre tombeau. Celui du maréchal Pétain et son cercueil qu'ils ont décidé de voler. Quant à vous, Jean-Luc Lemoine, vous allez nous raconter à votre manière, hein, comme chaque jour, le vivant de l'étape. Un vivant, mais qui aurait pu ne plus l'être. Hein. Il est tombé sur un os et même plusieurs os.
Ah oui, c'est rien de le dire. Hein. Alcides Moreno, c'est son nom, a fait une chute de 47 étages dans une nacelle qui a lâché alors qu'il nettoyait les vitres d'un building new-yorkais. Les vitres étaient propres, mais lui un peu moins quand il est arrivé en bas, vous imaginez.
J'imagine parfaitement et on en parlera juste avant 17h30. Et dans la dernière partie de l'émission, vous retrouverez deux êtres toujours vivants mais et toujours debout.
Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout.
C'est bien ce que je dis, oui. Ouais. Olivier Pouls d'abord, dans Mes aïeux qu'à l'époque, vous nous ramenez aujourd'hui au temps de la romantique et de ses orgies romaines.
Oui, une époque qui aurait pu vous plaire, Stéphane, hein.
Je suis pas très toge, moi.
Manger.
Oui, oui, j'aime pas manger allongé.
Oh, on vous forcera. Mais écoutez, vous avez drain de grappe.
Je vous rassure, on ne faisait pas que manger pendant les orgies romaines.
Voilà.
C'était un service complet, comme on dit.
Oui, mais quand on a le ventre bien lourd, c'est pas facile.
Justement, c'est pour ça qu'on est bien allongé.
Et David Castel-Lopez, vous nous racontez les origines du cochon d'Inde.
Exactement.
D'où ça vient.
D'où ça vient. Il y a des petites révélations, peut-être.
Oh, c'est pas, ouais. Des fun facts.
Des fun facts. Pas des révélations, parce que vraiment, je n'ai pas enquêté. J'ai fait des recherches.
Rendez-vous donc en fin d'émission, mais pour l'heure, je vous raconte nos deuxièmes personnages du jour.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern.
Il y a des malfrats qui volent de drôles de butins. Pourquoi diantre dérober le cercueil d'un vieux maréchal revêtu de son uniforme et de sa médaille militaire, frappé d'indignité nationale de son vivant qui plus est ? Je vous raconte maintenant l'histoire à peine croyable du commando de l'île Dieu qui est tombé en le cherchant bien sur les eaux du maréchal Pétain. Nous sommes le 19 février 1973. Il est 9h. Malgré l'heure matinale, il fait remarquablement doux en ce début de semaine hivernale. Jean Tarot, employé municipal du cimetière de Port-Joinville, a l'habitude, lui. Comme les autres habitants de l'île-Dieu, le fossoyeur connaît bien le microclimat qui préserve des grands froids ce territoire au large de la Vendée. Ce matin-là, Tarot inspecte les allées du cimetière marin. D'abord parce qu'on est lundi, mais surtout parce qu'une équipe de footballeurs chaussés de crampons a visité le cimetière la veille. Mais là, surprise. Autour de la tombe la plus visitée du cimetière, les allées sont parfaitement ratissées. Quelque chose cloche. La dalle funéraire semble même légèrement décalée. Mais diantre, le caveau a été descellé. Cela ne fait aucun doute. Les joints en ciment blanc sont encore frais. Sous le choc, le fossoyeur prévient la gendarmerie qui elle-même contacte immédiatement le procureur et le sous-préfet. Et c'est pas fini. Dès 10h30, l'information est communiquée au préfet en personne qui à son tour se décide à envoyer un télégramme au ministère de l'Intérieur. Tombe maréchal Pétain à l'île Dieu a été profanée nuit du 18 au 19 février 1973. Stop. Dalle a été décellée puis recellée. Stop. Un angle de la dalle a été cassé. Stop. Procureur de la République des Sables d'Olonne a été avisé. Fin. La tombe du maréchal Pétain. Eh oui. Sur l'île Dieu, c'est elle le monument local. Car c'est ici, en juillet 1951, que l'ancien maréchal de France a été inhumé après son décès à l'âge de 95 ans. Pas parce qu'il y avait de la famille ou une maison, non, non. Mais parce que c'est ici, dans une cellule du fort de la Pierre Levée, qu'il a passé les 6 dernières années de sa vie. Condamné à mort à l'été 1945, puis à la réclusion à perpétuité pour intelligence avec l'Allemagne et haute trahison. Mais pourquoi profaner sa tombe ? Le cercueil est-il toujours dans le caveau ? Vers 15h15, la police et les magistrats font ouvrir la dalle. Plus de doute, on a volé Pétain. Mais qui ? Et pourquoi ? Les enquêteurs trouvent rapidement une piste. Pour reboucher le trou fait dans la pierre tombale, les voleurs ont utilisé un journal espagnol. Or, de nombreux pétainistes ont trouvé refuge dans l'Espagne franquiste après la guerre. Cela se tient. Mais la direction centrale de la police judiciaire n'exclut pour l'instant aucune hypothèse. C'est beaucoup trop tôt pour cela. Surtout que le ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin, exige que l'on retrouve le cadavre dans les 24 heures. Quand il s'agit de Pétain, l'enjeu est politique, surtout qu'on est en pleine campagne législative. Dès le lendemain, la nouvelle fait les gros titres de la presse. Incroyable profanation, stupéfaction à l'île-Dieu, la dernière aventure du maréchal Pétain. Les enquêteurs sont sous pression. Toutes les polices du territoire ont pour ordre de retrouver le cercueil. Mais où peut-il bien être ? Une autre piste semble plus probable encore que l'Espagne. L'ossuaire de Douaumont, à Verdun. Pourquoi ? Parce que c'est là-bas que le maréchal Pétain aurait voulu être enterré, aux côtés des poilus, ceux pour qui il avait été un héros de la bataille de Verdun. Le testament qu'il a rédigé 3 ans avant sa mort le stipule clairement. Depuis son décès d'ailleurs, les pétainistes ne ménagent pas leurs efforts pour tenter d'obtenir la translation de sa dépouille à Verdun. Mais les gouvernements successifs ont tous refusé, les uns après les autres. Les adeptes de la péténie ont-ils décidé de prendre les choses en main ? Possible, d'autant que la date du vol est troublante. Le 19 février, 2 jours avant la date anniversaire du début de la bataille de Verdun. Les policiers surveillent donc étroitement Douaumont. Mais il faut prendre le problème par tous les bouts, à commencer par le début. La dépouille n'est plus sur l'île, les chiens policiers l'auraient découvert. Alors, comment l'a-t-elle quittée ? Des habitants affirment d'avoir entendu un hélicoptère durant la nuit. Mais la navigation aérienne n'a rien remarqué de suspect. La piste la plus probable reste la mer. Une vedette venant d'Espagne ? Oui, c'est possible. Mais c'est dans les registres du bateau La Vendée, celui qui fait la navette avec le continent, que l'on trouve la trace d'un véhicule suspect. Une camionnette bleue immatriculée dans les Hauts-de-Seine, mais louée avec un permis volé. La conductrice, une certaine Solange Bosch, ça ne s'invente pas, a néanmoins réservé avec le numéro d'immatriculation de son propre véhicule. Arrêtée dès le lundi soir, la commerçante se met à table dans la nuit. Elle n'a pas participé au forfait, mais elle a permis aux commandos de pénétrer sur l'île. Très vite, ceux qui ont fait le coup sont identifiés. Ils sont 6. Armand et Pierre Garraud, 2 anciens militaires, père et fils, 2 légionnaires étrangers, 1 marbrier professionnel du nom de Michel Dumas et enfin le chef d'équipe, un certain Hubert Massol. Et le dernier n'est pas un inconnu. C'est l'un des plus proches collaborateurs d'une personnalité sulfureuse. L'avocat et homme politique d'extrême droite, Jean-Louis Tissier-Vignancourt, leader de l'Alliance républicaine. Cet ancien secrétaire général du premier gouvernement de Vichy est un admirateur de longue date de Pétain. Il s'avérera que c'est lui, le véritable cerveau de l'opération. Lui qui a fait un repérage sur l'île quelques semaines plus tôt. Lui qui a mis au point un plan et demandé à Hubert Massol de constituer une équipe. Le dimanche 18 février au soir, le commando au complet est sur l'île. Vers 2h du matin, les 6 hommes pénètrent avec l'estafette dans l'enceinte du cimetière. Le marbrier a ouvert la tombe. Les malfaiteurs ont pris le cercueil et tout nettoyé derrière eux. Un peu trop bien d'ailleurs, ce qui éveillera les soupçons du fossoyeur. Puis la camionnette a pris la première navette pour le continent vers 4h30 du matin. Lâchés par un complice qui devait les planquer sur la route et paniqués en découvrant à la radio que leur forfait avait été découvert, ils changent de destination. Verdun, c'est trop risqué. Ce sera Paris, où le cercueil est caché dans un box dans la banlieue de Saint-Ouen. Il n'y restera pas longtemps. Massol est arrêté par la police dès le 21 février et la dépouille est retrouvée dans la foulée, soit 3 jours à peine après son exhumation. Toujours pas de Verdun pour lui. La dépouille du maréchal Pétain est réinhumée dans son caveau dès le lendemain. C'est un énorme fiasco et une tragicomédie qui embarrasse plus qu'autre chose les politiques. À tel point d'ailleurs que tous ceux impliqués dans l'affaire ne feront l'objet ni d'une condamnation, ni même d'un procès. Embarrassant, en effet.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler du commando de l'île-Dieu, nous sommes avec un historien qui s'est plongé dans cette affaire rocambolesque. Bonjour Jean-Yves Le Naour.
Bonjour Stéphane Bern.
Jean-Yves, vous racontez cette curieuse affaire dans un livre « On a volé le maréchal ». Ce 19 février 1973, les membres du commando exhument le cercueil de Pétain. ils sont les premiers à le faire ?
Ah oui, tout à fait, tout à fait. C'est un commando dont on ne sait pas tout à fait au départ ce qu'ils souhaitent. Vous l'avez rappelé, il y a la piste de l'inhumation à Verdun, une inhumation qui serait en quelque sorte clandestine pour répondre à ces dernières volontés. Mais il y a aussi une autre piste qu'on n'a pas tout à fait développée parce que les protagonistes ont toujours dit que c'était pas celle-là qu'ils visaient, mais il y a des éléments qui montrent que Tixier-Villancourt voulait négocier avec le pouvoir. Il voulait capturer, enlever le cercueil et négocier avec le pouvoir. On vous le rendra si vous acceptez l'inhumation officielle à Verdun. Et c'est pour ça qu'au départ, le cercueil devait être caché en Vendée, dans la demeure, dans un château d'un ci-devant. Et en fait, au dernier moment, il s'est défilé. Ce qui fait qu'ils se sont retrouvés, le commando s'est retrouvé avec le cercueil sans vraiment trop savoir quoi en faire. Et c'est pour ça qu'il a abouti dans un box, dans un parking de Saint-Ouen.
Alors, je l'ai raconté, ils sont six dans le commando. Qu'est-ce qui les lie les uns aux autres ? Ils sont tous les six pétainistes et nostalgiques de la France de Vichy ?
Oui, d'une certaine façon, oui. Ce sont des anticommunistes pour les militaires, les légionnaires, les parachutistes qui font partie de l'opération. Il y a deux personnes importantes dans ce commando. C'est Michel Dumas, qui est marbrier funéraire. Il m'a toujours dit que c'était pas une raison idéologique. Enfin, on peut aussi en douter. En ce qui concerne Hubert Massol, lui, le numéro 2 du parti groupusculaire de Tixier-Vignancourt, il est venu à l'extrême droite c'est la deuxième génération de pétainistes. C'est-à-dire que ce n'est pas la génération de Vichy. Il est trentenaire, donc il n'a pas connu, mais il est venu par l'Algérie française. De Gaulle a trahi la France, il a abandonné l'Algérie, il a abandonné les pieds noirs, et donc c'est toujours le thème du De Gaulle diviseur des Français, qui était le thème de Vichy, mais là, qui a été réactivé par l'Algérie française.
Mais Massol et Tixier-Vignancourt sont de vrais admirateurs du maréchal Pétain. À cette époque, ils sont nombreux à partager leur opinion. Ou est-ce que dans l'opinion publique, Pétain, c'est le traître, celui qui a trahi et qui nous a vendus à l'Allemagne ?
Les choses sont complexes parce que, si vous voulez, il y a deux mythes à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Et celui qui est dominant, c'est le mythe de la résistance, c'est le mythe gaullo-communiste, c'est-à-dire la France s'est libérée par elle-même, la France entièrement résistante. Et donc, De Gaulle est une icône. Et quant à l'extrême droite, il y a un autre, au pétainisme, il y a un autre mythe, c'est le mythe du bouclier et de l'épée. Et là, les Français, eh bien, ils y croient assez à ce mythe. C'est-à-dire que Pétain était vieux, il a fait ce qu'il a pu, il a tenté de protéger les Français des demandes allemandes. Mais les demandes allemandes ont fait qu'il a souvent capitulé. Mais ce n'est pas tout à fait de sa faute. Il a tenté de protéger les Français. Mais ce mythe, il va craquer complètement à partir des années 70. Justement, c'est le moment où ce mythe craque. Et on va s'apercevoir que Vichy, en réalité, s'est mis au service de l'occupant.
Quand cette affaire rocambolesque éclate, Pétain est mort depuis plus de 20 ans. La guerre est finie depuis plus de 30 ans. Où en est la mémoire de la Seconde Guerre mondiale en France ? Parce que c'est vrai qu'il y a... Vous parliez à l'instant du mythe de la résistance qui a été véhiculé et prêché par le général de Gaulle. C'est le moment, là, où on commence notre examen de conscience.
Exactement. Là, on est en 73 avec ce vol du cercueil de Pétain. Eh bien, en 71, si je ne me trompe pas, c'est la sortie du film Le Chagrin et la Pitié. Ce film a tellement fait scandale qu'il était programmé à l'ORTF et la télévision ne l'a pas diffusé. Il a été censuré. Et donc, il est sorti au cinéma, mais il a été le premier grain de sel qui montrait que la France n'avait pas été unanimement résistante. Et puis, 1973, l'année là, du vol du cercueil, c'est aussi la sortie en français, il est sorti en anglais aux États-Unis l'année précédente, de Robert Paxton, La France de Vichy. Robert Paxton est un historien qui a travaillé sur les sources allemandes et qui a montré que Vichy s'était mis au service de l'occupant et avait non pas seulement obéi aux demandes allemandes, mais avait collaboré activement, sincèrement, et notamment avait participé à la Shoah. Et c'est aussi les années 70 où la mémoire de la Shoah est en train de se réveiller. Les anciens déportés parlent. Enfin, ils avaient parlé, mais ils n'avaient pas été entendus dans la société d'après-guerre. Et là, dans les années 70, cette parole se libère et la France est confrontée à son passé. Oui, et là, il faudra attendre 1995 et Jacques Chirac pour reconnaître la participation de la France dans l'œuvre de mort des nazis.
Olivier ?
Oui, dans les heures qui suivent la découverte de la disparition du cercueil, l'affaire fuite, elle fait rapidement la une des journaux. Comment l'opinion publique française perçoit l'affaire à ce moment ?
Grosso modo, c'est un grand éclat de rire. Le Canard Enchaîné parle des eaux de Vichy, des policiers qui se déploient à Verdun, qui fouillent tous les véhicules. À Verdun, on ne passe pas. Enfin, bon, il y a des tas de jeux de mots. Les Français ont vécu ça comme une grande blague.
Le 22 février, dans la nuit, je l'ai raconté, le cercueil de Pétain est retrouvé dans un box à Saint-Ouen et remis en terre quelques heures plus tard au cimetière de l'Île-Dieu. Les membres du commando, eux, ne seront pas condamnés. Mais franchement, pour quelle raison ? Pourquoi les pouvoirs publics sont-ils embarrassés par cette affaire qui a tourné au fiasco et même au ridicule ?
Mais ils n'ont pas du tout envie d'avoir un procès, parce que si vous faites un procès, vous allez de nouveau déterrer cette question empoisonnante et empoisonnée de Vichy. Donc vous ne voulez pas de procès, vous ne voulez pas faire de procès. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On les a déférés devant un juge d'instruction qui les a reçus pendant 20 minutes, et puis après il les a remis en liberté en attendant le procès, et le procès ne se tiendra jamais. À l'issue des élections présidentielles de 1974, il y a une amnistie, et donc hop, ils sont amnistiés, et on en parle plus. On ne voulait pas faire un nouveau procès Pétain. C'est ce que voulait d'ailleurs Jean-Louis Tixier-Vignancourt. Il se disait, Hubert Massol sera arrêté et il sera déféré devant la justice et je serai son avocat. Et c'est derrière l'enlèvement du maréchal Pétain, je ferai la réhabilitation de Vichy, la réhabilitation de Pétain. C'est ça qu'il voulait faire. Et finalement, il en a été privé. La réaction des pouvoirs publics, finalement, a été assez intelligente.
Jean-Luc ?
Je crois qu'il y a les secours qui viennent vous chercher. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que depuis cet épisode, la tombe de Pétain est surveillée ? Est-ce que d'autres malins ont retenté le coup après le commando ?
Alors, il y a un poste de gendarmerie pas tellement loin. Les joints ont été bouchés au ciment. Il faudrait vraiment un marteau-piqueur pour de nouveau enlever Pétain. Mais non, il n'y a jamais eu d'autres tentatives. En revanche, il y a souvent des profanations. C'est-à-dire, on retrouve une poubelle qui a été renversée sur la tombe. Ou bien des déjections, ou bien encore des graffitis. Ça, c'est quelque chose d'assez courant. Il y a une association de pétainistes aujourd'hui qui s'en plaint, qui porte plainte à chaque fois. Sa tombe est caractéristique dans ce cimetière, c'est qu'elle est vraiment... elle est tournée dans l'autre sens des autres tombes. Vous voyez, même dans la mort, il est assez particulier.
Dans votre livre, vous rapportez les craintes des fidèles de Pétain, comme Isorni, son avocat, qui à la fin de sa vie craignait que l'on n'entretienne plus la mémoire du maréchal, que l'on ne fleurisse plus sa tombe. Mais aujourd'hui, il y a encore des nostalgiques de Pétain qui le font. Même si je crois que c'est récent, le président de la République ne dépose plus une gerbe sur sa tombe, n'est-ce pas ?
Oh, c'est depuis longtemps. La dernière gerbe de...
C'est François Mitterrand
en 1992. Ça avait causé tellement de scandales qu'il ne l'a plus refait. Oui, il y a toujours des nostalgiques de Pétain, bien sûr. Mais vous voyez, il y a une association qui défend la mémoire du maréchal Pétain, ça s'appelle l'ADMP. Et cette association, elle-même, en 2018, il y a quelques années, vous voyez, c'est très peu, très récent, a pensé à s'autodissoudre tellement ils sont peu nombreux, tellement ils sont âgés, ils sont tous octogénaires, puisque les associations nostalgiques de Pétain elles sont dans une situation de vieillissement et de crise. Alors Pétain disait en 1945, lors de son procès, « L'histoire me jugera ». Je crois que la bataille de l'histoire... Elle a été remportée, l'histoire l'a jugée, en effet. Donc vous me citez Isorni qui dit qui a été l'avocat de Pétain, qui viendra fleurir la tombe de Pétain après nous ? Eh bien, on peut lui répondre personne.
Mais merci Jean-Yves Le Naour de nous avoir raconté cette folle histoire. Je rappelle votre livre « On a volé le maréchal », toujours disponible aux éditions Larousse. Merci beaucoup Jean-Yves.
Merci à vous.
Europe 1, historiquement vôtre.
Stéphane Bern.
Aujourd'hui dans Historiquement Vôtre, avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez et Olivier Pouls, sont réunis des personnages qui sont tombés sur un os. Après Howard Carter et le commando de l'Île-Dieu, vous nous racontez Jean-Luc Alcides Morena, tombé sur un os et tombé de très haut surtout.
Ouf, j'ai entendu un crack là.
Oui.
Qui n'a jamais prononcé cette phrase chez un ostéopathe douteux ou après avoir tenté une position du Kama Sutra beaucoup trop ambitieuse pour un quinquagénaire ? Mon personnage du jour, lui, a entendu une bonne cinquantaine de cracks en même temps, lorsqu'il a chuté du 47e étage d'une tour new-yorkaise. Alors, petit point statistique pour commencer, il faut savoir qu'une chute de 3 ou 4 étages est mortelle dans 1 cas sur 2. Au-delà, je ne vous en parle même pas. Un médecin new-yorkais visiblement débordé par l'empathie d'ailleurs témoigne, au-delà de 10 étages, nous ne voyons jamais les victimes parce qu'on les emmène directement à la morgue. C'est terrible quand même, ça se joue quand même à un étage le tri. Il est tombé de quel étage, Brancardier ?
9e.
Ok, on le prend. Pardon, j'ai dit 9, je voulais dire 10. Autant pour moi. Mettez-le au frigo. L'homme dont je vous parle est un véritable survivant. Il n'est pas tombé sur un os, mais sur tous ses nonos réunis. il a survécu à une chute de 150 mètres.
Waouh.
Ah oui, si vous cherchez une définition au mot miracle, mon histoire risque de vous intéresser. Mon homme s'appelle Alcides Moreno.
N'oublie pas de monter là-haut.
Non les gars, ne pas compter avec Dario Moreno. Le mien est bien monté là-haut, mais il est redescendu un peu trop vite. Là, je vous parle de Alcides Moreno, laveur de vitres équatorien, et qui, après ce qui est arrivé, ne verra plus jamais une bouteille d'Ajax triple action du même œil. Vous faites régulièrement vos vitres, Stéphane ?
Bah, comme vous, oui.
Oui, question idiote. Vous avez des gens pour ça, mais ça me rassure.
Oh, mais non.
Car j'aurais trop peur de vous perdre. Parce que dans l'inconscient collectif, Olivier, un laveur de vitres en hauteur, c'est quoi ?
Un mètre ? Deux mètres ?
Non, je parlais au niveau physique.
Ah.
Rappelez-vous. Un homme à la charpente solide, à l'épilation soignée, sorti tout droit d'une pub pour Cola Light. Pour les enfants comme moi, biberonnés à la culture pub, un laveur de carreaux sur nacelle, c'est obligatoirement un type qui déambule torse nu devant les vitres d'une réunion de jeunes cadres sup en tailleur, et dont les indications de jeu par le réalisateur de spots de pub sont « Bon les filles, vous êtes chaudes, hein, vous êtes bouillantes, vous allez mordre la branche de vos lunettes et détacher langoureusement vos chignons, comme n'importe quelle nana chaude et bouillante en entreprise, ok ?» Oui, le réalisateur de la pub Cola Light avait de toute évidence une idée bien progressiste de ce qu'est réellement une femme dans le milieu du travail. Alors, je vous le dis tout de suite, hein. Mon laveur de vitres à moi n'est qu'un simple ouvrier habillé de la tête aux pieds. Désolé, mesdames. Non, mais restez quand même, l'histoire est belle, je vous le dis. Nous sommes à New York le 7 décembre 2007. Kylian Mbappé va bientôt avoir 9 ans et les téléspectateurs ont découvert 3 mois plus tôt une émission qui bouleversera à jamais leur vie, Secret d'Histoire. Vous vous souvenez de la première ?
Ah oui, oui, absolument.
Alcides, 37 ans, immigré aux États-Unis depuis plusieurs années, travaille en binôme avec son frère Edgar. Nous sommes en décembre. Il fait froid. Ce genre de froid qui vous traverse le corps et vous saisit. Ok, j'en viens au fait, puisque visiblement, une seule chose vous intéresse, le moment où il va se vautrer. Les frangins sont plantés sur leur nacelle et nettoient les vitres d'un des plus hauts immeubles du centre de la Grosse Pomme. 150 mètres les séparent du sol quand tout à coup, la situation vire au cauchemar. Alors que les frères Moreno en sont leur 72e pchit d'Ajax, la nacelle se met à vibrer. Un des câbles qui la retient cède. Les deux hommes plongent dans le vide et s'écrasent au sol.
Ouais.
Bon, inutile de vous dire que la nacelle est foutue. Sans grande surprise, hélas, Edgar, le jeune frère, meurt sur le coup.
Ah, c'est horrible.
Ah, c'est dramatique. Mais au miracle, Alcides, son frère, lui, n'est que gravement blessé. Comment ? Pourquoi ? Je dis... Le vent qui soufflait ce jour-là sur New York et la forme de la nacelle semble avoir quelque peu ralenti la chute, explique le Parisien. Les premiers secours arrivent sur place. Ça va pas le faire, se disent-ils en constatant l'état d'Alcides. Une fois à l'hôpital, les médecins procèdent à une opération de l'abdomen directement dans l'enceinte des urgences. Même pas le temps d'aller au bloc. Du fait minute, pour parler comme dans Top Chef. Au programme, une liste de diagnostics plus fournie encore que l'Ancien Testament. Un catalogue la redoute en épaisseur, mais version anatomique. Traumatisme crânien. Lésions à la colonne vertébrale, côte cassée, éventration, de nombreux os brisés aux deux jambes, 16 opérations et un coma artificiel. On dirait le programme d'une famille nombreuse qui joue au docteur Maboul un week-end de pluie. Défiant tous les pronostics et toutes les statistiques, Alcides survit à sa chute. « Merci mon Dieu, c'est un miracle », dit sa femme Rosario. Elle ajoute « Si mon mari a survécu, c'est parce qu'il est très croyant et qu'il était aussi en très bonne santé. » Bon, ça se discute, hein. Parce que quand tu chutes de 47 étages, le temps de la descente, je pense pas que tu dises « Oh, ça devrait aller, j'ai jamais fumé ». Quel que soit ton niveau sportif, on est très égaux dans la chute. Alcides rentre alors dans un parcours de rééducation intensive pour retrouver l'usage de ses bras et de ses jambes. Le jour de Noël 2007, il retrouve aussi l'usage de la parole. Ses premiers mots resteront à jamais gravés dans la mémoire des médecins qui l'entourent.
Vous pouvez couper la radio. J'ai jamais supporté Tino Rossi.
Mais non.
Non, évidemment, il n'a pas dit ça. Ses premiers mots ont été « Qu'ai-je fait ?» Reconnaissez que ma version avec Tino Rossi était plus surprenante. 6 mois après l'accident, Alcides peut enfin rentrer chez lui pour retrouver sa femme et faire les carreaux qui avaient un peu de retard. Il décide alors de poursuivre en justice le propriétaire de l'immeuble et le fabricant de la nacelle, qui est juge coupable, selon lui, de grave négligence. Je pense qu'il avait quelques sérieux éléments à faire valoir. Et parce que pour finir un portrait, il faut toujours une chute. Tout aussi étonnant est toujours à New York, en 2010, un jeune homme de 22 ans a plongé dans le vide du haut d'une tour de 39 étages. Il voulait mettre fin à ses jours et a finalement atterri sur la banquette arrière d'une voiture garée en contrebas, après avoir traversé la vitre arrière. Il s'en est sorti avec deux jambes cassées et un surnom donné par tous les témoins de la scène, l'indestructible, quand la mort ne veut pas de vous.
Merci Jean-Luc. Non, ce qui est triste dans l'histoire, c'est, oui, c'est une histoire incroyable, mais moi je pensais qu'il était seul sur sa nacelle de savoir que son frère cadet est mort.
Mais il y avait une histoire aussi pendant la Seconde Guerre mondiale d'un gars qui avait sauté de son avion, je crois, et qui n'était pas mort non plus, rattrapé par des branches de sapin, puis la neige, un truc assez dingue aussi.
Vous êtes sûr que vous n'avez pas vu un film plutôt?
Non, je pense que c'est vrai.
C'est vrai que c'est souvent dans les films, mais là, oui, évidemment, c'est dramatique pour le jeune frère. Et déjà qu'il y ait un survivant sur les deux, c'est quelque chose de phénoménal.
Historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages qui sont tombés sur un os pour retrouver deux garçons solides comme des rocs. David Castel-Lopez, vous nous racontez les origines du cochon d'Inde.
Exactement. Hein, je veux dire, je pense que je vais essayer d'être intéressant.
Ah ben, vous l'êtes tous les jours.
Oh, comme c'est gentil.
Mais avant ça, comme chaque jour, mes aïeux, quelle époque. Aujourd'hui, on parle cuisine avec vous, Olivier Pouls, notre guide culinaire vivant et même bon vivant. Alors, ça s'est passé dans le passé, on remonte au temps de la Rome antique et de ses orgies. Avec une question, Olivier, est-ce que c'est un mythe ou une réalité ?
Alors tout d'abord, imaginez les amis, Stéphane, Jean-Luc, David, nous serions au 1er siècle après Jésus-Christ, le plus aisé d'entre nous, vous Stéphane, nous a conviés chez lui pour la cena, c'est-à-dire le repas du soir, le plus important dans la culture romaine, et nous sommes tous les trois allongés, les Romains ne mangeaient pas assis, figurez-vous, mais bien allongés, et un énorme buffet de mets plus raffinés les uns que les autres, à l'époque, est déployé devant nous. Alors il y a des crêtes de coq, des langues de des têtes de perroquets, des vulves de truies, tout cela généreusement.
Des vulves de truies, sérieusement,
j'ai vomi.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on appelait vulve de truie en réalité ce qui était le ventre de la truie. Mais pour des raisons de traduction du grec au romain, c'est devenu vulve.
Oui, entre vulve de truie et crête de coq qui fait très maladie vénérienne, c'est pas très appétissant tout ça.
Ben non, mais surtout que c'est arrosé d'un vin plutôt acide et épicé. Mais voilà, nous mangeons quand même jusqu'à l'épuisement, allant régulièrement nous chatouiller le fond de la gorge avec une plume pour nous faire vomir et ainsi pouvoir continuer à nous empiffrer joyeusement. Alors voilà comment sont dépeintes les célèbres orgies romaines, dans l'imaginaire collectif évidemment. Mais alors, vous l'avez dit, mythe ou réalité, les Romains mangeaient-ils vraiment comme cela ? Alors dans son livre « L'Empire romain par le menu », Dimitri Tillois d'Ambroisie, qui est un chercheur et grand spécialiste de cette époque, dépeint une société romaine en fait bien plus modérée et raffiné que ce que je viens de vous raconter.
Ah, donc il n'y a pas d'orgie, j'en serais presque déçu, Olivier.
Mais rassurez-vous quand même, Stéphane, parce que ce type de pratique existait bel et bien, mais était, disons, à la marge. Elles étaient l'apanage d'une minorité de gens très aisés qui voulaient, au travers de ce type de repas, étaler leur richesse. Ces orgies, qui mêlaient donc nourriture et sexe, hein, sans limite, sont organisés dès moins 300 avant Jésus-Christ en l'honneur de Bacchus, on les nomme les Bacchanales. Alors il s'agissait avant tout de cérémonies religieuses. L'empereur Néron en était un adepte forcené. Il en organisait jusqu'à 5 par mois et s'est même trouvé un moment contraint de lever des impôts pour les financer, figurez-vous. Alors Claude ou Caligula feront à peu près la même chose. Ils consommaient alors à outrance des mets souvent très exotiques, très chers. Alors le mets le plus cher et le plus prestigieux de l'époque, figurez-vous, c'était du rouget.
Ah oui.
Vous savez, ce délicieux poisson de Méditerranée qui valait une fortune à l'époque. Alors, entre deux verres de vin et des bouchées de cervelle de faisan, on forniquait aussi joyeusement avec des femmes, mais aussi des hommes. Des excès qualifiés d'indécents par bien des observateurs de l'époque, comme Tacite ou le poète Oracle, qui n'hésite pas à caricaturer ce type de scène. Car dans le code de bonne conduite romain, savoir contrôler son corps est en fait une vertu. Et en réalité, l'immense majorité des Romains donc étaient bien plus raffinés et se nourrissaient plus simplement.
Alors justement, qu'est-ce qu'on trouvait sur leur table ?
Beaucoup de légumes, de fruits, des céréales préparées en bouillie, du poisson, de la viande séchée, bref, des menus en fait très équilibrés, hein, qui étaient servis un peu comme à notre époque, en trois temps, entrée, plat et dessert. Et les plus riches disposaient d'une salle à manger, le triclinium, dont le sol était recouvert de mosaïques. Alors on avait des coutumes un peu bizarres, c'est qu'on mangeait avec les doigts et surtout on jetait par terre les os, les arêtes de poisson, les noyaux de fruits, tels des offrandes en fait. Mais les repas devaient rester raisonnables en termes de quantité. Il était hors de question de se gaver.
Mais alors d'où vient justement cette image des orgies romaines dans l'excès?
Elles ont été propagées en fait un peu plus tard, dans la peinture du 19e siècle, hein, par exemple le fameux tableau de couture « Les Romains et la décadence », le cinéma aussi, avec des films comme Caligula ou Satyricon, et même la BD, notre ami Astérix. On dépeint dans ces bandes dessinées quelques orgies romaines qui, comme on l'a vu, ont existé mais n'étaient quand même pas l'apanage quotidien des Romains. Qu'est-ce que vous faites ce soir, les amis?
Je vais bien orgie, moi. Ouais. Ça me dit bien.
Non, moi, je vais prendre une soupe. Voilà.
Ah, bon,
non,
d'accord.
Ce qui m'étonne, vous dites qu'il mangeait de la cervelle de faisan?
Oui.
Il mangeait toutes sortes de choses dont vous n'avez même pas idée.
À quelle taille une cervelle de faisan?
Oh, c'est pas très grand. Hein, ça, c'est...
On est d'accord.
Ouais, ouais. Non, mais il en faut plusieurs. Pardonnez-nous. Mangez pas qu'une cervelle de faisan.
Oui. Mais on mangeait pas que la cervelle dans le faisan.
Non, on mangeait tout. Le faisan. Non, on mangeait la tête du perroquet, enfin, on mangeait tout.
Le perroquet? Ah non, les pauvres bêtes.
Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
Les origines.
Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoine et Olivier Pouls, et surtout avec vous, David Castel-Lopez. Aujourd'hui, les origines du cochon d'Inde.
Oui. Il y a une hiérarchie faite par les êtres humains, une hiérarchie un petit peu naturelle, faite par les êtres humains entre les animaux, avec une règle approximative mais très simple qui est: plus un animal ressemble à un être humain, plus il est haut dans la hiérarchie du respect. On respecte davantage les mammifères que les non-mammifères. Mmh. On respecte davantage les animaux intelligents que les animaux stupides. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on peut acheter dans les supermarchés du thon certifié sans dauphin, mais que vous trouverez jamais du dauphin certifié sans thon. C'est pour ça qu'on mange plus volontiers des côtes de porc et beaucoup moins des côtes de teckel, parce qu'on respecte plus les teckel que les porcs. C'est pour ça qu'un pigeon écrasé sur la chaussée, ça nous fera toujours moins de peine que la même chose avec Kikunu, le chat de la voisine du cinquième. Et je me suis posé la question, où se situe le cochon d'Inde dans cette hiérarchie? Eh bien, assez haut. En tout cas, si on en croit les statistiques sur les animaux de compagnie en France, c'est le troisième mammifère de compagnie le plus courant en France, derrière le chat et le chien. Même si les statistiques ne différencient pas les cochons d'Inde et les hamsters, hein, hamsters qui sont plus petits et qui sont aussi moins sociables, les hamsters. Même si ça ne les différencie pas, c'est quand même un animal qui est élevé dans la hiérarchie des animaux. En tout cas, en France. Bon, j'avoue, encore une fois, j'ai failli acheter un cochon d'Inde pour faire cette chronique, mais c'était un choix qui m'engageait pour un minimum de 4 ans, ce qui est l'expérience de vie moyenne d'un cochon d'Inde. 4 ans à nettoyer du pipi dans une cage et à trouver des gens pour le garder quand je pars en vacances, tout ça pour 4 minutes sur Europe 1. J'ai pas eu le courage et vous m'en excuserez. D'autant plus que le cochon d'Inde, il dort que 4% du temps. Il dort très peu et il dort que par tranche de 6 minutes et qu'en plus il a une sacrée tendance à couiner. Donc vous voyez, les nuits que vous passez avec les cochons d'Inde, c'est pas forcément...
Ah, vous n'êtes pas obligé de le mettre dans votre chambre.
Effectivement, effectivement. Surtout maintenant que j'ai
de la surface.
Mais bon, tout ça, ça ne m'a pas empêché de chercher d'où venaient les cochons d'Inde. Alors il y a un petit truc rigolo avec les cochons d'Inde, c'est que ce ne sont pas des cochons et ils ne viennent pas d'Inde. Voilà. Ce sont des rongeurs et ils viennent d'Amérique du Sud. Les plus anciennes traces de cochons d'Inde, elles datent d'il y a 11 000 ans sur le territoire de la Colombie actuelle. Et pendant à peu près toute son histoire, le cochon d'Inde, il est resté en Amérique du Sud. Et puis, au XVIe siècle, les Européens y sont arrivés. Et comme on le sait, les Européens, quand ils sont arrivés en Amérique, ils ont cru que c'était l'Inde. Et même d'ailleurs, quand ils ont compris que c'était pas du tout l'Inde, ils ont quand même continué à appeler ça l'Inde parce que c'est comme ça. Voilà, on ne sait pas pourquoi. On ne va pas corriger notre erreur, ça nous emmerde parce qu'on est des Européens. Et en Inde, donc en fait, ce qu'ils appelaient l'Inde, ils ont découvert ce petit animal poilu qui était là depuis déjà très longtemps. Et il se trouve que cet animal, il a un cri qui, quelquefois, peut ressembler lointainement à celui d'un cochon. Une sorte de petit... Comme ça, j'imite le cochon d'Inde. C'est assez...
J'aime quand vous couinez comme ça.
Ça ne m'étonne pas. Et donc, paf, ils se sont dit, ça ressemble un peu à des cochons, on est en Inde, paf, cochon d'Inde. Assez vite, dès le XVIe siècle, ils ont été importés en Europe et ils sont devenus d'abord des animaux de compagnie un petit peu chic, mais surtout, à partir du XIXe siècle, ce sont devenus des animaux de laboratoire. Pourquoi? Eh bien parce que le cochon d'Inde, c'est un animal docile, facile à manipuler et qu'il a des grosses similitudes biologiques avec l'être humain. Notamment, il est comme nous, super vulnérable aux maladies infectieuses. Donc quand on veut les étudier sur l'homme, c'est bien de les étudier d'abord sur le cochon d'Inde. C'est en utilisant des cochons d'Inde qu'on a découvert par exemple le bacille de la tuberculose, ce qui a ouvert la voie à ce qu'on puisse la traiter. Donc c'est quand même, merci les cochons d'Inde. Bon, aujourd'hui, le cochon d'Inde, il a largement été remplacé dans les laboratoires par les souris. Mais il y a un endroit où il continue à souffrir sensiblement plus qu'ailleurs. Et cet endroit, c'est l'endroit d'où il vient, en Amérique du Sud. Au Pérou, par exemple, le cochon d'Inde, c'est un plat national très apprécié. Les Péruviens, ils n'arrêtent pas de manger des cochons d'Inde. Moi, ça me rend triste, même si ma tristesse n'est pas hyper cohérente, vu que je trouve ça parfaitement normal de manger du lapin. Or, vraiment, la différence entre un hamster et un lapin du point de vue de la morale...
C'est ça, c'est du délit de faciès.
Pas très clair. Voilà, c'est du délit de faciès. Et en plus, il y a un autre truc dans les Andes, c'est que le cochon d'Inde, il fait partie d'un rituel assez courant et assez cruel, qui est un rituel de détection des maladies. Y a des sortes de mages, de sorciers, comme ça, qui frottent des cochons d'Inde partout sur le corps des malades. Et ensuite, ces guérisseurs, en quelque sorte, ils tuent le cochon d'Inde, ils lui ouvrent les entrailles, et là, grâce à leur formation de sorciers, ils arrivent à savoir de quelle maladie souffre la personne. Voilà, vous frottez un cochon d'Inde sur la personne, vous le tuez, vous regardez ses entrailles, vous dites « Ah, c'est le cancer, par exemple. » Bon, je vous dis tout de suite...
Il vaut mieux sculpter l'être humain directement.
Voilà, mais je vous dis tout de suite, ça ne marche pas hein, pour détecter quoi que ce soit, jamais.
Oui, jamais.
Donc, voilà.
Et c'est inutile. Quelle différence entre manger un cochon d'Inde et manger un rat ? Parce qu'un rat coloré, en fait.
Oui, et puis à ce moment-là...
C'est plus appétissant, quand même, le cochon d'Inde.
Non, puis c'est dans notre imaginaire.
Je pense.
C'est un rat avec un joli poil.
C'est vrai, puis généralement, les cochons d'Inde, on les élève dans des sortes de clapiers à cochons d'Inde. Ce n'est pas des rats qui ont traîné dans les ordures, etc. Je ne sais pas d'ailleurs si ça rend les rats contaminants pour les êtres humains, mais ça fait que l'imaginaire du rat est quand même lié à la souillure, quoi. Voilà, plus que du cochon d'Inde.
D'accord. Ah. Bah, merci beaucoup, David. On en a appris davantage sur le cochon d'Inde. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr. Historiquement vôtre, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient lundi dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages à qui on a donné des noms d'oiseaux. Le peintre du goût français qui n'a pas plu à tout le monde, Nicolas Poussin. Puis le dramaturge qui a eu lui aussi des noms d'oiseaux et vu le sien, il fallait oser, c'est Pierre Corneille. Et vous Jean-Luc, vous nous raconterez un drôle d'oiseau lui aussi.
Oui, Patrick de son prénom, Patrick Loiseau, un artiste au parcours incroyable, vous verrez.
Alors, à lundi les amis, bon week-end à tous.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.